Vous écoutez, on lit pour vous.
Les femmes sans la RAMQ, privées d'avortement au troisième trimestre. Un texte de Florence Morin-Martel paru le 9 décembre 2025 dans Le Devoir. Au Québec, les femmes non couvertes par le régime public en santé n'ont pas accès aux avortements au troisième trimestre, même si elles sont prêtes à payer. Depuis 2024, une directive ministérielle que Québec justifie par un manque de ressources spécialisées ferme la porte à ses patientes, révèle un nouveau rapport de recherche qui réclame l'accessibilité à ce soin pour toutes. On ne comprend pas comment le gouvernement peut maintenir une position aussi ouvertement discriminatoire. Les conséquences sur la vie de ces femmes sont désastreuses, déplore Jess Legault, coordonnatrice générale de la Fédération du Québec pour le planning des naissances, FQPN. Ces cas peuvent concerner notamment des étudiantes internationales, des femmes avec des statuts migratoires précaires ou des femmes d'autres provinces canadiennes qui sont au Québec, précise Mme Legault. Les femmes sans couverture publique peuvent toutefois obtenir un avortement au premier et au deuxième trimestre au Québec à leurs frais. Mardi, le 9 décembre 2025, la FQPN a rendu public le rapport. Quand le consensus vacille, financé par le secrétariat à la condition féminine, qui examine le mouvement anti-avortement québécois et les barrières d'accès aux interruptions volontaires de grossesse, IVG, dans la province. Le document souligne, entre autres, les difficultés d'accès liées aux soins tardifs. Au Québec, comme dans le reste du Canada, il n'existe pas de date limite légale pour se faire avorter. Depuis 2019, le réseau de santé de la province offre des IVG au troisième trimestre, autrefois effectués aux États-Unis. L'offre de service est disponible et organisée pour desservir toute la population québécoise, indique Santé Québec. Ces interventions demeurent toutefois très rares, environ une trentaine par année. Les patientes concernées vivent souvent des situations complexes, comme de la violence conjugale, de la consommation ou un diagnostic de malformation fœtale, relève Jess Legault. Depuis 2024, les équipes médicales doivent cependant, avant d'entamer la procédure, s'assurer que la patiente est couverte par la RAMQ ou par le Programme fédéral de santé intérimaire, PFSI. Qui protège notamment les demandeurs d'asile. Ces orientations ministérielles servent à assurer l'offre de services à la population québécoise, explique la porte-parole du ministère de la Santé, Marie-Pierre Blier. Les raisons derrière cette directive ne sont donc pas économiques, précise-t-elle. Il s'agit d'un enjeu lié à la disponibilité limitée des ressources professionnelles pouvant offrir ce soin. Le danger de refuser l'exception de l'exception. Pour la FQPN, cet argument ne tient pas la route, car très peu de femmes sans couverture publique demandent une interruption de grossesse au troisième trimestre. C'est vraiment l'exception de l'exception, souligne Jess Legault. Selon elle, refuser ces quelques cas ne permet donc pas réellement d'économiser des ressources. Elle craint que restreindre l'accès à ces soins puisse amener certaines femmes à tenter de s'avorter elles-mêmes, une situation déjà observée par le passé. Avant que le gouvernement fédéral légalise l'avortement sous certaines conditions, en 1969, les complications liées aux avortements clandestins étaient la cause de nombreuses hospitalisations chez les Canadiennes, rappelle-t-elle. Madame Legault reconnaît que les avortements au troisième trimestre sont un sujet sensible, mais être pro-choix, ça veut dire faire confiance aux femmes dans leurs décisions, même si ce n'est pas le choix qu'on ferait nous-mêmes. C'était « Les femmes sans la RAMQ privée d'avortement au troisième trimestre », un texte de Florence Morin-Martel paru le 9 décembre 2025 dans Le Devoir.
« De la purge à la dignité, le témoignage puissant de Michel Douglas, un texte d'Anaïs Nzelomona, publié le 15 décembre 2025 dans La Liberté. À la suite du gala Raising Our Voices du 17 novembre 2025 avec Michel Douglas, directrice générale du Fonds Purge LGBT et ancienne membre des Forces armées canadiennes, le MCDP a décidé de prolonger l'exposition Amour caché, la purge LGBT au Canada. Congédiée en 1989 pour son orientation sexuelle, son expérience est commune à plus de 9000 personnes au Canada. Le Musée canadien pour les droits de la personne, MCDP, a annoncé la prolongation de son exposition Amour caché, la purge LGBT au Canada. Les visiteurs pourront ainsi découvrir ou redécouvrir cette exposition jusqu'à l'automne 2026. Lors du gala Raising Our Voices, qui se tenait au Musée canadien pour les droits de la personne, Michelle Douglas, directrice générale du Fonds Purge LGBT, a rappelé que pour le musée, la purge LGBT est l'une des violations à grande échelle des droits des travailleurs les plus longues de toute l'histoire canadienne. En partageant son histoire personnelle, Michelle Douglas revient sur son entrée dans les Forces armées canadiennes en 1986, elle est alors âgée de 22 ans. Elle explique combien l'armée représentait pour elle un lieu d'épanouissement où la discipline et l'esprit d'équipe lui convenaient parfaitement. C'est devenu une part de qui j'étais et de comment je me percevais. J'ai obtenu les meilleurs résultats dans chacun des cours que j'ai suivis. J'étais en route vers une carrière prometteuse, mon mérite était évident. En 1986, l'armée canadienne appliquait toujours une politique intitulée « Sexual Deviation, Investigation, Medical Examination and Disposal ». Et bien que l'article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés était déjà en vigueur, ce n'était pas le cas pour tout le monde, rappelle Michel Douglas. Surveillant. Ce que mes supérieurs ne savaient pas, et ce que j'ignorais moi-même à l'époque, c'est que j'étais déjà sous enquête par l'unité de police militaire à laquelle j'avais été affectée, et les choses ont très vite dégénéré. Un matin, son supérieur l'emmène sous un faux prétexte, c'est le début de 2 jours d'interrogatoire. La police militaire la questionne sur son orientation sexuelle et sur des détails intimes de sa vie. On a aussi essayé de me soutirer des noms d'autres personnes gays ou lesbiennes que je connaissais dans l'armée. Ma loyauté envers le Canada a été remise en question et ce fut une expérience extrêmement difficile. Plus tard, j'ai été envoyée à Ottawa où les interrogatoires ont continué et alors attachée à une machine et à un détecteur de mensonges dans un centre de police militaire, j'ai admis être lesbienne. Une parmi des milliers, elle explique devant l'audience le caractère cruel de cette traque gouvernementale et du harcèlement mis en place. Suite à cela, elle a été congédiée en 1989, un renvoi accompagné d'une mention non employable en raison de son homosexualité. La politique de la purge, explique-t-elle, était conçue pour nous harceler, nous traquer, parfois nous criminaliser ou nous institutionnaliser et toujours nous diminuer. Malgré le poids du récit, Michel Douglas insiste tant autant sur la force collective, la résistance et la résilience, car les gens ont résisté, dit-elle. Ils ont protesté contre la discrimination, sensibiliser le public et même poursuivre le gouvernement. Son propre recours judiciaire a contribué à la fin de cette politique qui ciblait et purgeait les personnes de LGBTQI+ de l'armée, un tournant qu'elle décrit comme faisant partie de son parcours de guérison. Mise en garde. Son discours prononcé au sein du musée prend un sens tout particulier. Interrogée sur cette résonance, elle affirme que ce lieu est essentiel pour réfléchir aux victimes d'injustice et aux moyens de favoriser la réconciliation et la guérison, mais aussi pour motiver les gens à poursuivre les luttes actuelles pour les droits humains. Toutefois, aujourd'hui encore, Michelle Douglas appelle à la vigilance. En effet, pour elle, le passé doit servir d'exemple, mais aussi de mise en garde. Ainsi, elle assure que la purge LGBT n'est pas seulement une tache sur l'histoire du Canada, mais un avertissement, car cela nous montre avec une brutalité saisissante comment la peur, sous couvert de sécurité nationale, peut devenir un outil pour persécuter les minorités. Soutenir la diversité, dit-elle, c'est une question de dignité, de justice, de respect et de force. Les préjugés, les peurs irrationnelles, les malentendus et les biais politiques, religieux et culturels, profondément ancrés, continuent d'exister contre la communauté de LGBTQI+. Pour conclure, Michel Douglas choisit de rappeler avec force des principes simples et essentiels. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Les valeurs canadiennes telles que l'égalité, la primauté du droit et la démocratie sont précieuses et particulières. Nombreux sont ceux qui ont tout sacrifié pour les protéger. C'est notre devoir de leur rendre hommage. Avant d'inviter l'Assemblée à découvrir la galerie de l'exposition Amour caché, la purge LGBT, elle laisse à chacun un dernier appel. Je crois que nous sommes meilleurs lorsque nous plaçons la dignité, la justice, le respect et l'égalité au cœur de tout ce que nous faisons. Et si vous pensez que je suis une rêveuse, je ne suis pas la seule. S'il est maintenant reconnu qu'il y a des victimes de cette purge LGBT, les victimes ne disposaient pas encore d'un lieu public de mémoire. Le gouvernement avait annoncé la création d'un futur monument national à ce jour prévu pour l'été 2026. Le futur monument national de SLGBTQI+ Thunderhead commémorera les victimes et la résilience de la communauté de SLGBTQI+, une symbolique qui complète ainsi le travail de mémoire entrepris par l'exposition. C'était « De la purge à la dignité », le témoignage puissant de Michel Douglas, un texte d'Anaïs Nzelomona, publié le 15 décembre 2025 dans La Liberté.
Le polyamour est-il toujours queer? Une chronique de Samuel Larochelle parue le 25 octobre 2025 dans le magazine Fugue. Une nouvelle amie a ébranlé mes certitudes. Mariée à un homme, mère de famille, en couple avec un deuxième amoureux et n'ayant aucun intérêt pour la gente féminine, elle diffère partie du spectre de la queerness. Instinctivement, j'ai cru qu'elle s'appropriait un monde qui n'était pas le sien. Puis, je suis allé au-delà de ma réaction primaire et j'ai compris que les polyamoureux avaient, eux aussi, leur place dans nos communautés. Si votre premier réflexe est de monter aux barricades pour affirmer que les maudits, maudites woke veulent ajouter un P à l'acronyme communautaire, qu'il y a déjà trop de lettres, que vous n'arrivez plus à suivre et qu'on est en train de détruire les fondements de la société, je vous invite à boire une camomille et à revenir nous voir quand vous aurez envie de réfléchir à un monde en mouvance, plutôt que de vouloir le rigidifier parce que c'est moins forçant de même. Revenons à nos moutons polyamoureux. Dans plusieurs cas, leur queerness est une évidence. Pensons à un couple de trois hommes. À un couple formé de personnes aux genres variés qui partagent une intimité émotive et sexuelle. À une lesbienne avec deux blondes qu'elle rencontre séparément. À un homme trans qui a deux partenaires qui se voient de temps à autre. Tous ces exemples impliquent des formes diverses d'homosexualité, de bisexualité, de pansexualité, d'identité de genre en dehors de la binarité et plus encore. Mais qu'en est-il de l'ami dont je parlais en introduction? Malgré de rares expériences avec des femmes durant sa jeunesse, elle se dit hétérosexuelle. Son mari et son amoureux sont deux hommes qui n'ont pas noué de relation entre eux. Ils se connaissent, ont déjà soupé tous les trois ensemble, mais ne partagent aucune forme d'intimité. Seul mon ami entretient un lien privilégié avec chacun. On pourrait donc résumer le tout à de l'hétérosexualité vécue avec deux partenaires. Pourtant, il y a plus. La notion de queer ne se résume pas aux orientations sexuelles et aux identités de genre. Quoi? Ce mot-là veut encore dire une autre affaire? D'une part, on l'utilise souvent comme un terme englobant les franges de nos communautés de SLGBTQIA+. D'autre part, on en fait une identité qui expulse les codes imposés par la binarité homme-femme et hétéro-homo, en vivant dans une forme de fluidité. On peut également y voir une dimension politique. En effet, aux yeux de bien des gens, être queer est une vision du monde. Un rejet de nombreux codes et structures. Un refus de se laisser enfermer dans une boîte. Une revendication de l'éclaté, du souple, du flou et du poreux. Une existence en dehors des lignes, des murs et des frontières. Le jour où j'ai pris conscience de cela, j'ai compris pourquoi mon ami straight considérait que son polyamour appartenait au monde queer. Est-ce que cette information efface la valeur de ma réaction initiale? Mon amie essaie-t-elle, inconsciemment et sans intention malicieuse, de s'approprier notre monde? Nos communautés ne sont-elles pas formées de personnes qui ont appris à assumer leurs différences à la face du monde, en refusant de suivre le chemin tracé devant elles, en tournant le dos aux attentes sociales et en écoutant leur vraie nature? Ne sommes-nous pas des millions à avoir souffert de notre orientation sexuelle ou de notre identité de genre non traditionnelle? À avoir tenté de changer ou de nous cacher? À avoir été victime d'insultes, de violences et d'exclusions? L'appartenance au queer ne vient-elle pas avec un lot de souffrances et de combats, à petite et à grande échelle? Oui, dans plusieurs situations. Mais avec le recul, je réalise que mon amie peut, elle aussi, revendiquer certains de ces éléments. Je ne surprendrai personne en affirmant que le couple hétéro-monogame est encore l'un des socles de nos sociétés. Comme elle n'adhère pas à la monogamie, mon amie détonne. Vous me direz qu'il est possible de vivre le polyamour dans la discrétion, sans que le reste du monde ne l'apprenne et que les gens partagent leur opinion non sollicitée sur le sujet. C'est probablement vrai. Mais comme mon amie est du genre à s'assumer, elle a discuté de ses dynamiques amoureuses avec ses enfants, ses parents et ses beaux-parents. Les réactions furent nombreuses et pas toujours joyeuses. À sa manière, elle compose avec les regards extérieurs, l'incompréhension et le jugement, parce qu'elle n'entre pas dans la case du couple traditionnel. Elle ne s'est jamais endormie à l'adolescence en rêvant de changer d'orientation sexuelle. Elle n'a pas eu d'idée suicidaire en réaction à une dysphorie de genre. Elle n'est pas ostracisée au quotidien en raison de ses préférences, les hommes, ou de son identité. Mais cette dynamique relationnelle fait exploser les codes. Et ça, c'est profondément queer, que vous le vouliez ou non. S'il existe une quantité impressionnante de gays et de lesbiennes qui font tout pour correspondre au moule hétéronormatif en se tenant loin des codes de la culture queer, je ne vois pas pourquoi il n'y aurait pas d'espace pour les hétéros polyamoureux dans le monde queer. C'était « Le polyamour est-il toujours queer? » une chronique de Samuel Larochelle parue le 25 octobre 2025 dans le magazine Fugue.
Le projet hydroélectrique d'Iqaluit, retenu comme grand projet fédéral, un texte de Karine Lavoie, publié le 27 novembre 2025 dans le Nunavoie. Le gouvernement fédéral a annoncé le 13 novembre sa deuxième série de projets d'infrastructures d'envergure nationale qui bénéficieront d'une procédure d'approbation accélérée par le Bureau des grands projets, BGP. Parmi les initiatives retenues figurent Iqaluit Nukik Sautit, une centrale hydroélectrique de 15 à 30 MW visant à remplacer entièrement l'électricité produite par les générateurs diesel de la ville. Dirigée par Nunavut Nukik Sautit Corporation, NNC, ce premier projet d'hydroélectricité détenu à 100% par les Inuits du Nunavut promet de diminuer les émissions de gaz à effet de serre de plus de 130 000 tonnes chaque année, de stabiliser les coûts de l'énergie et d'apporter des avantages à long terme aux communautés. Évalué entre 400 et 500 millions de dollars, la construction prévue pour 2028 permettrait de réduire l'importation annuelle d'environ 15 millions de litres de diesel. Après un processus de consultation, le site de la rivière Kougalouk, situé à une soixantaine de kilomètres au nord-est d'Iqaluit, est celui retenu. un projet structurant. Cette annonce se produit alors que le premier ministre, Mark Carney, a présenté sa stratégie nationale incluse dans le budget 2025, Un Canada fort, qui vise à transformer l'économie canadienne pour que celle-ci ne relève plus principalement d'un seul partenaire commercial, mais devienne plus forte, autosuffisante et résiliente aux chocs planétaires. Rebecca Alty, ministre des Relations couronne autochtone, déclare que, dans un monde de plus en plus concurrentiel et incertain, Ottawa prend des mesures décisives pour renforcer le Canada et libérer tout son potentiel économique. Le projet hydroélectrique Iqaluit-Nuqkiksawtit a été choisi parce qu'il répond à plusieurs des priorités les plus importantes de notre gouvernement et parce qu'il en est à un stade avancé de développement, ce qui en fait un candidat idéal pour être soumis au Bureau des grands projets. Rebecca Alty, ministre des Relations couronne autochtone. Dans une déclaration officielle, P.J. Akiagok, premier ministre sortant du Nunavut, dit accueillir favorablement l'engagement du fédéral d'inclure la centrale hydroélectrique parmi les chantiers de construction nationale supportés par le BGP. Cette décision reconnaît ce que les Nunavummiut savent depuis longtemps. Investir dans les infrastructures du Nunavut est essentiel à la force, à la durabilité et à la souveraineté du Canada dans l'Arctique, souligne-t-il. Un propos que le président et chef de la direction de la NNC, Harry Flaherty, soutient. C'est un signal que les Nunavummiut sont indispensables à l'économie canadienne unifiée et que les Inuits, unis, peuvent prendre en main leur propre avenir, affirme-t-il. Pierre-Alain Bugeaud, des relations avec les médias au bureau du Conseil privé, révèle que Mark Carney a énoncé que les propositions d'envergure nationale ne peuvent être réalisées qu'en pleine consultation avec les peuples autochtones afin d'accroître la participation et les partenariats et de supporter des opportunités financières durables pour les générations futures dans leur communauté. Une fois qu'un projet est soumis au BGP, Pierre-Alain Bugeaud indique que celui-ci se concentre sur la résolution des défis liés aux politiques ou à la réglementation, la structuration du financement ou la réduction des risques, dans le but d'accélérer les décisions et d'assurer que les initiatives demeurent compétitives, de la mise en œuvre à l'exploitation, pour éviter d'influencer le potentiel choix et de respecter la sensibilité des discussions en cours, le gouvernement du Canada dit s'abstenir de commenter publiquement l'état d'avancement de la centrale hydroélectrique. Pas une garantie d'être construit, une analyse environnementale à venir. La première année d'analyse de base vient de se terminer pour NNC et Jess Pottister, qui y agit comme gestionnaire stratégie et engagement, affirme que rien ne garantit pour le moment que le projet sera construit. Nous savons, grâce aux Inuits, que le caribou, l'omble chevalier, les plantes, les oiseaux et la qualité de l'eau sont tous des éléments d'une importance cruciale, énonce-t-elle. Nous offrirons un accès complet et transparent à toutes les données provenant des études menées à Kuugaluk. Nous proposerons également des activités d'engagement public accessibles et interprétatives afin d'examiner ces informations ensemble en tant que communauté et d'intégrer les savoirs traditionnels inuits. Jess Pottister, gestionnaire stratégie et engagement chez NNC. C'était le projet hydroélectrique d'Iqaluit, retenu comme grand projet fédéral, un texte de Karine Lavoie, publié le 27 novembre 2025 dans le Nunavut.
Le poids santé de Serena Williams. Un texte d'Angela S. Alberga, Marie-Lou Côté, René J. Rogers et Ximena Ramos Salas, paru le 15 septembre 2025 dans La Presse. Angela S. Alberga est professeure agrégée Université Concordia, Marie-Lou Côté, professeure adjointe et psychologue clinicienne Université Laval. René J. Rogers est scientifique senior en obésité et activité physique, États-Unis, et Ximena Ramos Salas est consultante indépendante en recherche sur l'obésité et le stigma, Université de Lund, Suède, affiliée à BIAS 180, Canada. Les agonistes des récepteurs GLP-1 sont des médicaments utilisés dans le traitement du diabète de type 2 et de l'obésité, sous suivi médical. Ils agissent en imitant une hormone naturelle qui aide à réguler la glycémie, réduit l'appétit et ralentit la digestion. Ces médicaments s'administrent le plus souvent par injection hebdomadaire. Leur efficacité est bien démontrée, tant pour améliorer le contrôle du diabète que pour favoriser la perte de poids. Comme tout traitement, ils peuvent toutefois entraîner des effets secondaires, généralement gastro-intestinaux, par exemple nausées, diarrhées, constipation, et plus rarement, des complications plus graves, comme des atteintes au pancréas ou à la thyroïde. Cela souligne l'importance de poursuivre les recherches sur leurs effets à long terme. Évoquant ses efforts passés pour contrôler son poids, Serena a dit, citation, « J'ai littéralement tout essayé. Courir, marcher, faire du vélo, monter des escaliers, tout ce que vous pouvez imaginer, je l'ai fait. Même jusqu'à essayer de faire un sport professionnel. » Fin de citation. 23 titres de tournoi du Grand Chelem, 4 médailles d'or aux Jeux olympiques. L'argent n'est pas un problème. L'accès aux soins de santé n'est pas un problème. Si Serena ne parvient pas à réguler son poids uniquement grâce à l'activité physique, qui le peut? Elle rappelle que la gestion du poids est un phénomène complexe et que l'activité physique à elle seule ne suffit pas nécessairement. Même pour une athlète olympique. Son témoignage pourrait contribuer à améliorer la compréhension des liens entre activité physique et gestion du poids et à une vision plus nuancée des traitements par GLP-1 en aidant à comprendre certaines choses.